France Culture.
Jacqueline Lafond, bonsoir.
Bonsoir.
On se retrouve aujourd'hui pour cet épisode 3 intitulé « La criminalité en col blanc », dans lequel nous allons parler justement de pénal des affaires. Hier, nous avons parlé de vos 10 premières années en tant qu'avocate dédiée à la défense d'affaires pénales dites générales, de crimes, de viols, d'assassinats, de stupes. Puis dans les années 90, le cabinet que vous partagez avec votre mari Pierre Haïk connaît un tournant avec l'affaire Michel Roussin, mis en examen alors qu'il est ministre de la coopération d'Édouard Balladur sous la présidence de François Mitterrand. Donc c'est l'une des grandes affaires mettant en accusation un ministre en fonction. Et à partir de cette affaire, votre cabinet va se retrouver être l'un des grands cabinets des affaires politico-financières. Alors peut-être vous pouvez nous raconter le contexte de cette affaire qui démarre, je crois, en 1994. Il est aussi Michel Roussin, ancien directeur de cabinet de Jacques Chirac à la mairie de Paris. Donc c'est toutes ces casquettes-là qui vont le mener devant les tribunaux, Jacqueline Lafond.
Oui, qui vont le mener devant les tribunaux pour une très longue période, puisque en fait il y aura une succession d'affaires, et derrière toutes ces affaires, ce qui sera en réalité recherché, c'est un éventuel financement occulte du RPR de l'époque. Cette première affaire éclate de façon tonitruante en 1994, en novembre. Je crois que c'est la première fois qu'un ministre est mis en examen en exercice. C'était la jurisprudence Balladur de l'époque et qui s'est peut-être créé à ce moment-là, qui était qu'un ministre mis en examen devait démissionner. Ça se passe de façon très brutale. Il y a une forte pression médiatique. Cette affaire est instruite par un juge d'instruction qui s'appelle Éric Alphen au tribunal de grande instance de Créteil à l'époque.
Juste un petit point pour rappeler ce qui s'est passé, Jacqueline Lafond, au début de la mise en accusation de Michel Roussin.
Oui, c'était une affaire dans laquelle un homme qui était un chef d'entreprise était accusé d'avoir établi des fausses factures pour pouvoir générer une double comptabilité, dégager de l'argent, argent qui était suspecté avoir abondé les caisses du RPR. Michel Roussin démissionne, il est en plein sommet franco-africain et il nous raconte que Mitterrand le fait partir par une voie détournée parce que la presse entoure l'endroit où ça se passait. Je crois que c'est à Saint-Nazaire, mais je ne suis plus sûre du lieu. Et il lui tape dans le dos en lui disant « Vous verrez, Michel, ça vous fera le cuir ». Voilà. Donc je crois que ça lui a fait le cuir parce que...
17 ans quand même de procédure.
Voilà. Oui. 17 ans, c'est une tranche de vie. Et je commence par là parce qu'en réalité, c'est 17 ans que l'on vit ensemble. Sur le plan judiciaire, évidemment, mais 17 ans, c'est une tranche de vie. En 17 ans, il se passe plein de choses. Il y a des enfants qui naissent, qui grandissent, il y a des gens qui meurent. C'est un épisode d'une longueur incroyable et qui, effectivement, donne, ou pas d'ailleurs, mais en l'occurrence, a donné lieu à des liens très forts avec Michel Roussin. Et dans cette première affaire, dont les conséquences ont été immédiates, violentes, ce qui nous avait frappé à l'époque, c'était de voir à quel point la classe politique de l'époque changeait quasiment de trottoir après la mise en examen de Michel Roussin quand il leur arrivait de le croiser dans certaines occasions. Et les personnes de ce monde-là font la dure expérience de la nature humaine et de ce qu'elle peut avoir parfois, pas toujours. Il y a forcément, évidemment, Dieu merci, des aspects formidables et que je n'oublie pas. Mais en tout cas, c'était ce qui nous avait frappé, c'était la solitude, tout d'un coup, d'un homme qui était extrêmement courtisé, qui se retrouvait soudain très seul.
En quoi est-ce que, Jacqueline Lafond, ce dossier va changer la donne et va changer aussi la nature des affaires qui vont arriver dans votre cabinet, pour peut-être l'expliquer. C'est-à-dire que c'est à la fois une personnalité politique, c'est un dossier financier, c'est un dossier médiatisé. Tous ces éléments-là entrent en ligne de compte.
Tout cela rentre en ligne de compte et effectivement, ça a été probablement les affaires politico-financières n'ont quasiment pas existé jusqu'au début des années 90. Et pour ce qui nous concerne, Pierre et moi, l'affaire de Michel Roussin, le fait qu'il nous choisisse pour assurer sa défense dans le cadre de cette affaire et puis dans toutes celles qui suivront, a été effectivement un point de départ d'une nouvelle orientation. Je dirais, enfin, d'ailleurs, orientation n'est pas le bon mot parce que c'est comme si nous l'avions choisi. En fait, c'est lui qui nous a choisi et ce qu'il nous avait raconté à l'époque, c'est qu'un haut magistrat qu'il connaissait bien, il était défendu avant nous par un bâtonnier qui lui avait été donné par le pouvoir en place, etc. conseiller, va-t-on dire, qui était au demeurant quelqu'un de sympathique et voilà, mais qui n'était pas un pénaliste. Et un haut magistrat avait interpellé Michel Roussin lorsqu'il avait fait savoir qu'il allait s'adjoindre les services d'un autre cabinet d'avocats, alors la personne de Pierre Haïk et de moi-même, en lui disant, mais enfin, vous n'y pensez pas, Pierre Haïk et Jacqueline Lafont, ils défendent des voyous, des trafiquants de drogue, etc. Et Michel Roussin lui avait répondu, vous savez, on me traite comme un voyou, je prends un avocat de voyou. Et c'est comme ça que les choses ont commencé. Je crois qu'il a compris très vite que le pénal, c'était un métier. C'est une façon d'aborder la défense très particulière. C'est une vraie spécialité. Et quand il est venu vous voir par l'intermédiaire d'une relation commune, je me souviens très bien de ce premier rendez-vous. On est resté à parler pendant 3 heures et là, quelque chose s'était scellé et est resté scellé jusqu'à la fin.
Alors, il va se passer plusieurs choses à travers cette affaire, parce que la question, c'est de savoir aussi les règlements de compte politiques qu'il peut y avoir derrière. Donc, vous voyez qu'il y a d'autres enjeux derrière les enjeux juridiques. Comment est-ce qu'on défend une personnalité politique de premier plan, médiatisée? Alors là, en plus, il se retrouve dans une sorte de double histoire, puisque c'est un Chiracien qui devient baladurien dans une période de cohabitation. Donc, c'est la Mitterrandi et la Chiracie réunies, d'une certaine manière.
C'est exactement ça, et on peut dire que cette affaire, cette première affaire et les autres qui suivront méritent bien l'appellation d'affaire politico-judiciaire, parce qu'il y avait une dimension politique qui était évidente, qui transparaissait d'ailleurs. Michel Roussin, après avoir été très proche, et l'un des hommes les plus proches de Jacques Chirac, avait fait le choix de suivre Balladur. Et il y avait cette époque, effectivement, de la cohabitation, une bataille acharnée entre les Chiraciens et les Balladuriens, et la volonté d'essayer d'attaquer Jacques Chirac par l'intermédiaire, paradoxalement, de celui qui était devenu Balladurien, puisqu'il avait rejoint le gouvernement d'Édouard Balladur.
Donc, il y avait attaqué les Chiraciens par le fait qu'il était directeur de cabinet de Jacques Chirac à la mairie de Paris. Et donc, il y avait l'histoire des HLM.
Il y avait l'histoire des HLM, il y avait cette histoire de Créteil, et il y avait des rumeurs qui circulaient. Il y avait beaucoup de mises en cause qui avaient été recueillies par le juge Alphen. Et on a entrepris dans ce dossier-là un vrai travail de pénaliste et de fourmi. C'est-à-dire qu'on a repris, avec Pierre, je me souviens, tous les éléments, tous les dossiers, tous les témoignages qui constituaient ce dossier. Et puis on s'est rendu compte qu'en réalité, ces témoignages pouvaient être très facilement démontés. On a découvert, par exemple, que l'une des personnes dont le témoignage avait été recueilli avait été entendue par le juge d'instruction alors qu'il se retrouvait hospitalisé aux urgences psychiatriques d'un hôpital où le juge était allé l'entendre pendant 2 heures. On a fait démontrer que certains témoignages d'anciens chauffeurs qui manifestement étaient instrumentalisés était mensongé dans la mesure où l'un chauffeur disait qu'il entendait au rez-de-chaussée les bruits des billets qu'on comptait, alors qu'en réalité, en se transportant sur place, on voyait que ça n'était pas possible. En fait, on a fait un travail qui était, somme toute, un travail de fond de dossier. On s'est beaucoup battu dans cette affaire jusqu'à obtenir qu'un non-lieu soit rendu 1 an plus tard. Et donc, Michel Roussin a été blanchi dans cette affaire.
Mais après, il y en a eu plusieurs.
Et après, ça n'a pas été fini. C'était un filon qui a été exploité jusqu'au bout. Il y a eu donc l'affaire ensuite, des années plus tard, des marchés de la région Île-de-France. Cette fois-ci, il s'est retrouvé mis en examen par 2 juges d'instruction. Et il a été convoqué. Et dans ce cadre-là, son incarcération a été demandée. En fait, on était confronté à un problème qu'on avait identifié avec Pierre, dans la mesure où l'un des juges d'instruction avait été le procureur dans l'affaire de Créteil, celle de Éric Alphen. On avait considéré qu'il y avait là un problème d'impartialité, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas avoir son accusateur dans une affaire connexe qui se retrouvait juge d'instruction dans une affaire nouvelle. Donc, on avait donné le conseil à Michel Roussin de ne pas parler. À l'époque, c'était une défense un peu, je dirais, offensive et courageuse.
C'est le droit au silence.
C'est le droit au silence. Sauf que ce droit au silence, il n'a été consacré par la loi que bien plus tard. C'est une loi de 2000. À l'époque, il pouvait être utilisé, mais il n'était pas reconnu en tant que droit. Et c'était une défense qui était quand même assez rare et je dirais pas de rupture, parce que c'était pas le but recherché du tout, mais on pensait que c'était le seul moyen qu'il avait de se défendre. On n'avait pas encore accès au dossier, et en fait...
Donc ça veut dire qu'il ne répondait pas aux questions du
juge ? Il ne répondait pas du tout aux questions. Il était convoqué en vue d'une garde à vue, et c'est pendant la garde à vue qu'on lui a donné ce conseil-là. Donc il a passé 2 jours en garde à vue à ne pas répondre aux questions des enquêteurs. Il a donc été extrêmement courageux. Le système de défense était courageux, mais il fallait le supporter. Et lorsqu'il s'est retrouvé devant les juges, en réalité, ils lui ont demandé s'il n'avait rien à dire et s'il n'avait pas un nom à donner. On sait bien quel était le nom qu'ils attendaient, hein, qui était le nom de Jacques Chirac, que Michel Roussin l'a écrit avant moi, donc je peux le dire. En tout cas, c'était le nom que les juges attendaient. Et lorsque ce marché lui a été mis entre les mains, Michel Roussin s'est levé, il s'est tourné vers les gendarmes, il a tendu les bras, parce qu'il a compris que ne donnant pas le nom, il irait en prison. C'est ce qui s'est passé, et il a été incarcéré le soir même. Et là, j'ai un souvenir assez fort de ce moment-là. D'abord parce que c'était un moment dur, l'incarcération de Michel Roussin. Nous avions son épouse et son fils. L'un de ses fils, l'autre était à l'étranger qui nous attendait. Et on savait qu'il fallait leur annoncer cela. On avait pris une option qui était quand même particulière, mais je pense que c'était la bonne. Et lorsqu'il est parti, les juges d'instruction se sont tournés vers les gendarmes en proposant de mettre une couverture sur la tête de Michel Roussin. Et avant même que Michel Roussin n'ait le temps de répondre à cela, l'un des gendarmes, puisque c'était aussi un ancien officier de gendarmerie, l'un des gendarmes s'est tourné vers le juge en disant « Monsieur le juge, Michel Roussin n'est pas homme à se laisser mettre la tête sous une couverture. » Et ils sont partis tous les trois, et il a été incarcéré. Et je me souviens très bien de cette nuit-là, parce que c'était quelque chose de très angoissant pour nous, parce qu'on avait eu encore une fois ce choix de défense qui était un choix fort, mais en même temps qui était le seul choix possible. Et en fait, on a été confortés dans ce choix, puisque 5 jours plus tard, on a fait un référé liberté, c'est-à-dire qu'on a demandé une audience en urgence devant la chambre de l'instruction, et la chambre de l'instruction l'a remis en liberté.
Vous dites, Jacqueline Lafond, qu'il n'y avait pas vraiment d'affaires politico-judiciaires avant ce tournant du milieu des années 90. Est-ce que la justice, à votre sens, a été très clémente avec les hommes politiques pendant longtemps ? Processus qui se serait peut-être modifié avec le temps ?
Je pense réellement qu'il y a eu probablement pendant des années une difficulté à faire sortir les affaires politiques.
Des ministres en fonction.
Surtout des ministres en fonction. Alors, à supposer qu'il en ait existé, mais surtout des ministres en fonction. Je pense qu'il y a eu un moment où c'était probablement même impossible.
Il va y avoir, peu de temps après cette première affaire, d'autres, du coup, affaires qui vont vous arriver dans le cabinet suite à cet épisode Roussin. Et une affaire emblématique qui va être extrêmement reprise par la presse, c'est celle d'Alfred Sirven, l'affaire Elf. Peut-être vous pouvez nous en dire quelques mots, Jacqueline Lafond.
Alors oui, Alfred Sirven, c'est une des autres affaires importantes de cette période-là, plus tard, hein, puisque c'est dans les années... l'affaire Elf commence en 1997, je crois qu'il y a même les prémices de l'affaire des frégates de Taïwan encore un peu plus tôt, mais Alfred Sirven prendra la fuite lorsqu'il comprendra que ces affaires sont instruites, et il sera en définitive arrêté aux Philippines en 2001.
Là, c'est le juge Eva Joly.
Alors là, c'est le juge Eva Joly, ensuite accompagné de Laurence Wisniewski, et puis plus tard de Renaud Van Ruynbeck, voilà, qui leur succédera quelques années plus tard, je ne sais plus également. Et en fait, il y a plusieurs affaires là aussi qui sont imbriquées. Il y avait l'affaire des frégates de Taïwan. Dans ce volet-là, Alfred Sirven était mis en cause pour avoir, avec la société Elf, dont il était le directeur général, sous les ordres de André Tarallo et de Loïc Le Floch-Préjean, Alfred Sirven était mis en cause pour avoir payé, en réalité, notamment un très bel appartement à Christine de Vierge-Joncourt, qui était, disait-on dans le dossier, la maîtresse du ministre des Affaires étrangères en exercice à l'époque, qui était Roland Dumas, et que ce cadeau qui était fait sur les fonds d'Elf avait pour objet de vouloir faire obtenir la signature de ce fameux contrat des frégates de Taïwan.
Ça, par l'intermédiaire de Roland Dumas.
Par l'intermédiaire de Roland Dumas.
Donc, qui d'ailleurs, Joncourt qui devait faire pression, ou en tout cas convaincre.
Absolument, qui était sa maîtresse, et qui était donc... Voilà, ça, c'était la première accusation. Et la seconde qui... L'affaire Elf, à proprement parler, celle qui débutera en 97, dans laquelle il sera jugé, donc il y a deux affaires qui l'ont concerné.
Lui, c'est le numéro 2 de Elf à l'époque.
Voilà, il est numéro 2 d'Elf. Et la seconde affaire, c'est une affaire dans laquelle il a été suspecté que des centaines de millions aient été prélevés sur les fonds de cette entreprise publique, qui était alors Elf, pour payer notamment des hommes politiques de tous bords, et puis aussi, c'était l'accusation, en partie les dirigeants de Elf, et des hommes politiques africains.
Et alors là, il va se passer une affaire éminemment romanesque et épique, Jacqueline Lafont, parce que Alphen Sivan va fuir, et il va être recherché pendant assez longtemps avant qu'on arrive à le repérer aux Philippines.
Voilà, il va être recherché plusieurs années. Il va fuir, il va se retrouver avec celle qui l'épousera à sa sortie de prison et qui s'appelle Vilma, une compagne philippine. Et ils se sont finalement tous les deux installés sur une plage déserte où ils ont vécu un peu comme des Robinson Crusoé, d'amour et d'eau fraîche, en se baignant tous les jours dans la mer. Ils étaient juste une toute petite maison. Il a découvert la simplicité, mais je crois qu'il l'avait connue étant jeune, Alfred Sirven. Il cultivait ses légumes, il vivait là jusqu'au jour où finalement des personnes ont parlé, où il a été arrêté. Et à ce moment-là, il a été mis dans un avion, ramené en Europe. D'abord, il est passé par une prison en Allemagne. Et à ce moment-là, Pierre est appelé par un de nos confrères, qui s'appelle Éric Turcon, que l'on ne connaissait pas, qui avait été déjà l'avocat d'Alfred Sirven auparavant, qui était un avocat fiscaliste, qui avait eu lui aussi maille à partir avec la juge Eva Joly. Tout ça s'étant évidemment terminé par un non-lieu, et il avait été blanchi, et il avait eu vent qu'un jour Pierre s'était énervé à la buvette du palais parce que les avocats pénalistes qui étaient à table venaient commenter cette arrestation d'Éric Turcon. Et Pierre avait pris sa défense en disant « mais c'est scandaleux, vous êtes pénaliste, on a un confrère qui est mis en cause, si ça se trouve de façon scandaleusement injuste ». Et voilà. Et donc il s'était insurgé de façon publique, mais pas devant lui, il l'avait su. Et c'est donc Pierre qui l'avait appelé pour aller voir Alfred Sirven. Et ça a été le début d'une longue défense de ce personnage, parce que vous avez raison de dire que c'était un vrai personnage de roman.
Alors, on le considère comme le fugitif, c'est le fugitif. Il avale sa puce de téléphone.
Alors, quand il est interpellé, il avale sa puce de téléphone, qu'on ne retrouvera jamais. Il avale avec sa puce de téléphone ses secrets. La presse avait coutume d'écrire à l'époque que Alfred Sirven avait dit à qui voulait l'entendre qu'il avait tant de secrets qu'il pourrait faire sauter toute la République. Il ne l'a jamais vraiment confirmé, jamais vraiment affirmé non plus. Il avale donc sa puce de téléphone et il est pris en photo, et cette photo a été publié un peu partout dans le monde à l'époque. Il était en chemise bleue à carreaux et on le voit avec un panneau où il y a écrit « Le fugitif », ce qui était assez incroyable. Et c'est la raison pour laquelle nous avions saisi la justice d'une demande de condamnation des supports qui avaient publié cette photo en disant que c'était une atteinte à sa présomption d'innocence. Et c'était une des premières affaires d'atteinte à la présomption d'innocence.
On voit que la téléphonie, aujourd'hui, ça aurait son impact avec les nouvelles méthodes.
La puce avalée n'aurait pas servi à grand-chose.
Alors, qu'est-ce que cette affaire, justement, va faire émerger comme nouveaux enjeux, justement? Parce que là, on est dans une affaire où elle, finalement, en tant qu'entreprise publique, sert comme de caisse noire, d'une certaine manière, au financement. En tout cas, c'est la suspicion des juges.
C'était la forte suspicion des juges qui attendaient donc d'Alfred Sirven qu'il parle.
Qui donne qui? C'était Dumas qui était visé derrière lui?
Il y avait Dumas, Jacqueline Lafont. Il y avait une partie d'hommes politiques du Parti socialiste. Et la réalité, c'est qu'il était suspecté d'avoir, grâce au détournement de fonds provenant d'Elf, financé un nombre très important de personnalités politiques, plutôt de tous bords, mais aussi des dirigeants africains. En réalité, Alfred Sirven ne parlera jamais. Et je me souviens aussi d'un moment assez fort où il était en prison. C'était comme un homme qui n'était plus très jeune. Il avait des problèmes cardiaques. Et la juge d'instruction de l'époque lui dit « Mais enfin, Monsieur Sirven, si vous ne dites rien, vous allez rester en prison pendant des années et des années. » Et il lui avait répondu en lui disant « Écoutez, Madame le juge, Moi, la peine de mort n'existe plus. Donc, vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Je n'ai rien à dire à ces questions-là. Mais je voudrais vous dire une chose, c'est que moi, je suis un homme libre. Et il y avait cette espèce d'échange incroyable parce qu'il était en train de lui montrer qu'elle, en réalité, n'était pas libre dans sa recherche, qu'elle était orientée parce que il y a des choses que je ne pourrais pas expliquer qui seraient trop complexes, mais il y avait quand même des choix qui avaient été faits, comme souvent dans les affaires pénales. Hein. C'est-à-dire que André Tarallo avait été extraordinairement protégé dans un premier temps, ça s'est rééquilibré au détriment de
l'Alfred. Le directeur d'Elf.
Voilà.
Le numéro 1, au-dessus
de lui. Le numéro 1, qui était censé occuper la villa d'Omar Bongo, etc. Il y avait tout un volet incroyable, mais l'affaire est énorme. C'est la plus grosse affaire en termes de dossier que j'ai jamais plaidé. En fait, elle était énormissime. Donc, il y a une multitude de volets complexes. Mais il signifiait par cela qu'elle pourrait le détenir aussi longtemps qu'elle le voudrait. De toute façon, il ne dirait rien. Et Alfred Sivan, moi, je l'ai beaucoup, beaucoup vu en prison. C'était un personnage de roman. Il avait été résistant très jeune. Moi, j'ai toujours une fascination pour les gens courageux et qui ont fait preuve de courage pendant des périodes difficiles de notre histoire. Il s'était engagé dans les bataillons français de l'ONU pendant la guerre de Corée. Et moi, je passais des heures en prison avec lui, il me racontait tout ça et je trouvais ça génial. Et on parlait pendant des heures de tout. Et il était prêt à rester le temps qu'il faudrait. Mais jamais il n'aurait parlé. Donc la réalité, je ne la connais en fait pas plus que vous, pas plus que les juges. Il a été finalement jugé un jour. Il a été condamné dans une affaire à 3 ans. Et, en fait, les peines ont été diminuées devant la cour d'appel. Et j'ai plaidé sa mise en liberté avant qu'il soit jugé par la cour d'appel de la seconde affaire. Et j'ai obtenu sa mise en liberté. Et c'est vraiment un résultat qui m'a fait un immense plaisir parce qu'en réalité, il est mort quelques mois après, mais au moins, il est mort libre.
Est-ce que ça a été une découverte pour vous quand même que cet univers-là des affaires, vous n'étiez pas formée comme avocate des affaires, mais comme pénaliste, Jacqueline Lafond, c'est finalement un métier que vous apprenez sur le tas, cette spécialité des affaires, d'une affaire après l'autre, en vous renseignant. Comment est-ce que ça se passe concrètement dans votre travail d'avocate? Parce que ça change la donne quand même. Alors, les entreprises, les chiffres, ces comptabilités.
Ça change un peu les choses, mais en réalité, pas tant que ça. Quoi. C'est un autre travail sur l'étude de certaines pièces. C'est-à-dire que oui, j'ai appris à passer plus de temps sur des documents financiers, sur des comptes, sur des bilans, des choses que je n'avais pas pour habitude d'examiner ou d'analyser. Donc il a fallu se plonger dans tout ça. Mais en fait, si vous voulez, l'essentiel du travail, parce que pour ça, il suffit d'être un technicien. Alors, les avocats sont aussi des techniciens du droit et je revendique aussi cette spécialité-là et cette dimension-là. Mais, si vous voulez, cette technicité-là, si elle n'est pas mise au service d'une stratégie, en fait, les ponts entre le pénal général, le pénal ordinaire et ce pénal-là sont beaucoup plus nombreux qu'on ne le croit. Et en réalité, ils sont non seulement nombreux, mais pour moi indispensables. C'est-à-dire que le socle fort de la défense, il est éminemment présent dans ces affaires-là aussi, s'y ajoute seulement, donc un travail de dossier considérable, mais ça c'est toujours quelque chose que j'ai vraiment favorisé dans ma façon de travailler les dossiers, celui-ci était gigantesque, mais avec simplement la nécessité commencer à comprendre effectivement des pièces financières
qui n'étaient pas... des collaborateurs aussi un peu différents.
Absolument, des collaborateurs que l'on a parfois recrutés avec... Comme premier critère pour moi, qui est essentiel, c'est d'avoir envie de faire du pénal. Et pas d'avoir envie d'être avocat pénaliste d'affaires. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure que pour moi, avocat pénaliste, ça faisait qu'un. Mais avocat pénaliste tout court, ça fait qu'un. Et quand il y a chez moi des personnes qui viennent me voir en me disant « moi, je veux être avocat pénaliste d'affaires », je pense qu'il leur manque une volonté, je leur explique, et parfois ils peuvent changer d'avis et évoluer. Oui, voilà, il y a cette façon de recruter parfois certains collaborateurs qui ont des compétences, qui ont fait des écoles de commerce en plus d'écoles de droit, et qui peuvent effectivement être en soutien technique dans certains dossiers plus compliqués. Celui-ci n'était pas si complexe que cela, il était complexe par son énormité. Mais il y a parfois des affaires de droit de la concurrence, boursière, où là, effectivement, parfois, on a besoin de collaborateurs qui soient un peu plus spécialisés.
Jacqueline Lafond, est-ce que ça change votre quotidien d'avocate? C'est-à-dire que vous n'avez plus tout à fait la même clientèle, vous n'êtes plus totalement généraliste. Il y a quelques affaires de pénal général, mais beaucoup moins. Il y a moins de comparutions immédiates, moins de temps peut-être passé en prison, quoique vous y allez quand même. Est-ce que ça change justement la... la composition aussi de votre clientèle.
Alors, la clientèle, oui, a évolué. Il y a eu cette espèce de tournant avec, que vous évoquiez, avec Michel Roussin, et puis cette succession d'affaires.
On n'est pas dans le même monde.
On en évoque quelques-unes aujourd'hui. On n'est pas dans le même monde, non. Mais on est avec les mêmes ressorts. On est avec les mêmes ressorts et on est avec, je dirais, la même application des principes qui ont fait qu'on est devenu avocat pénaliste et qu'on a voulu exercer cette défense-là. Alors oui, les choses sont différentes. On est peut-être plus proche, de par la vie qui est la leur, de ces personnes que l'on défend aujourd'hui. Mais je continue à défendre quand même autant que je le peux des personnes qui sont mises en cause dans des affaires de pénal général. Et en fait, je pense que ce qui est très important, c'est qu'on apprend la distance avec ces personnalités dont je vous parlais dans la première partie de notre propos hier, hein, c'est-à-dire ces gens qui sont les gens du voyage, ou ces trafiquants de drogue, ou ces vieux. Évidemment qu'on ne partage pas leur vie, on est très loin de leur vie. On est plus proche de la vie des gens que l'on défend aujourd'hui. Mais je pense qu'on a appris quelque chose d'absolument fondamental dans ce métier. La distance, ça ne veut pas dire l'absence d'humanité, c'est pour moi tout l'inverse. Mais c'est la juste distance par rapport à la personne que l'on défend.
Et donc, peut-être la même faiblesse face à la machine judiciaire, c'est-à-dire que plus on est ministre, puissant, etc., plus finalement la vie bascule, ou en tout cas tout autant peut-être, en tout cas quand la prison arrive, c'est une sorte de limite pour tous.
Oui,
Jacqueline Lafont.
Vous avez tout à fait raison, la vie bascule exactement de la même manière et peut-être même de façon encore plus inattendue parce que ce sont des parcours de vie dans lesquels a priori la prison ou même la simple confrontation à l'institution judiciaire n'était pas même envisagée. Donc cette confrontation-là, elle est difficile, elle est douloureuse et surtout, il faut l'accompagner parce que vous pouvez défendre la personne la plus intelligente au monde, vous pouvez défendre des personnes qui parfois sont plus intelligentes que vous et en même temps, vous avez quelque chose à leur apporter parce que vraiment, l'appareil judiciaire, c'est quelque chose de très particulier et aussi puissant que vous soyez, lorsque vous êtes confronté à cet appareil judiciaire-là, vous êtes en état de faiblesse, vous êtes en état d'inégalité. Et aujourd'hui, on le voit, les hommes politiques non seulement ne sont pas plus préservés que les autres, et ça, c'est bien normal qu'il en soit ainsi, hein, l'inverse serait absolument choquant, mais je pense pouvoir dire que, à certains égards, parfois, ils sont plus exposés encore que les autres et ils ont plus de difficultés à être entendus par les juges.
Merci Jacqueline Lafont. On continue demain à évoquer de grands dossiers d'affaires politico-judiciaires. C'était À Voix Nue, avec Jacqueline Lafont, chargée de programme Daphné Abgral, prise de son Benjamin Troncin, réalisation Anne de Pelchin. Une série disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.